9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bonjour mes amis, Maître Serran est heureux de vous retrouver au sein de cette radio qui respire la joie et la bonne humeur en ces temps quelque peu perturbés. Alors oui, j'aurais pu vous dire tout cela avec plus d'enthousiasme, mon cher Philippe.
C'est moyen. Là,
oui, on est d'accord, Maître Serran n'a pas le cœur à ça. Ah. Hier matin, Maître Serran était de particulière bonne humeur sur la route qui devait me mener à mon cabinet. Je me suis dit, tiens, pour ma chronique du vendredi, tu devrais, Mourad, car oui, quand je m'adresse à moi, je me tutoie. Mmh. Tu devrais donc, Mourad, raconter ton escapade sur les Champs-Élysées samedi dernier avec les gilets yellow. Et rien qu'en pensant
à l'histoire... Et le cousin du Bled aussi.
Aussi. Et le cousin du Bled.
Pardon, non, mais si vous oubliez le cousin du Bled, c'est moins intéressant.
C'est vrai. Et rien qu'en pensant à l'histoire que j'allais vous raconter, je me suis trouvé bon. Sauf qu'en écoutant la radio, Beurre FM, pour ne pas la citer, j'entends mon camarade Adil Farkan. Ah. Maître Serran est alors ravi d'entendre la voix de Monsieur Adil Farkan, une amitié non pas de 30 ans, faut pas exagérer, mais quand même, ça fait un bout de temps qu'on se connaît, frère. Et quand on se voit à la radio, alors Mourad, ça va, et toi Adil, ça va, alhamdoulilah, et la famille, tiens, d'ailleurs, t'auras remarqué que quand deux Arabes se croisent, et quand ils se saluent, ça prend à minima une demi-heure. On te demande, pour chaque membre de ta famille, proche ou pas, si l'intéressé va bien. Alors imagine que tu lui réponds, non, oula frère, ma tante en ce moment, elle va pas bien, et blablabla, et blablabla. En vérité, le type, il en a rien à foutre de ton histoire. Mais chez nous, c'est comme ça, on écoute, peut-être même que le frère va compatir, alors que t'as juste envie de lui dire, écoute Roya, l'histoire de ta tante, je m'en balais, et ton histoire, non mais je m'en balais,
non.
Je m'en balais chez eux.
Ah oui,
l'histoire de ta tante, je m'en balais. Ouais. Donc, je reviens à M. Adil Farkan, j'écoute donc l'émission, et arrivé de M. Philippe Robichon, pareil, petit échange entre vous, mon cher Philippe, et Adil Farkan, comment tu vas, alhamdoulilah, bon, je vais pas tout répéter.
Ah, moi, je dis pas ça. Hein.
Non, mais moi, je le dis pour vous.
D'accord, bon.
Et on salue M. Abdelali Mamoun, et ça, je l'abat jaune, pour vous dire que j'ai bien écouté l'émission, et là, frère, j'entends quoi ? Monsieur Farkan déclarait, hey, les gars, vous savez quoi? On va se faire une émission ensemble avec toi, Philippe, avec toi, Abdel Ali, avec toi, Kim. Tiens, on va même demander à Vanessa d'y participer.
Et on parlera
de l'actualité de l'année. Bon. Alors, moi, dans ma voiture, je constate que tous les noms ont été cités, mais à aucun moment, je me suis peut-être, il y a une erreur, mais à aucun moment, Maître Serran a été cité.
Non.
J'étais dans ma voiture, là, comme ça, et donc, Mourad, je me dis, mais personne ne t'aime. Les larmes aux yeux, frère. Je suis arrivé au cabinet, j'avais les yeux rouges, t'imagines, toi. Le type, il est prêt à appeler Vanessa, c'est-à-dire à sortir mamie de sa maison de retraite, pour vous citer mon cher Philippe, et il parle pas de Maître Serran. Il est prêt à appeler tout le monde sauf Maître Serran. Alors, comment je peux prendre ça, mon cher Adil Farkan? Vous considérez que l'intervention de Maître Serran au sein de l'émission que vous prévoyez n'est aucunement importante, que l'analyse politique fine que Maître Serran pourrait faire de l'actualité ne vous intéresse absolument pas? Maître Serran n'est pas déçu, il est tout simplement triste. Bon, mon cri de colère étant terminé, je vous passe la parole. Auditeur, appelez le 01 53 48 3000 et posez vos questions. Émission sous le contrôle de Monsieur Philippe Robichon. D'ailleurs, Felipe, quand Adil n'a pas cité mon nom, je vous ai pas entendu.
J'y ai pensé, je vous le jure.
Allez, Beurre FM, c'est tout droit. Yalla, c'est parti.
Non, mais je voulais pas m'immiscer, moi, c'est une idée d'Adil.
Non, mais c'est une idée.
Moi, je vous aurais pris en un. Vous savez bien comment je suis, moi.
Je sais bien.
Vous êtes le premier à qui je demande, d'ailleurs.
C'est vrai,
souvent.
Mais j'étais déçu.
Il a un petit budget, Adil.
Ouais, c'est mais d'ailleurs, j'entends.
Nous, notre émission, il y a du budget. c'est du lourd. Mais Adil, il y a une enveloppe. Alors tu vois, il y a même pas de quoi payer croissant.
Mais c'est pas grave, je suis pas gourmand.
Mais non.
Histoire de me payer un sapin, par exemple.
Bien, Maître Serran, tout va bien. Vous avez votre chocolat?
Oui, je veux mon chocolat, mais j'ai terminé vie. Je veux pas faire le gourmand.
D'accord.
Mais si on pouvait m'en offrir un second.
Un second à la mi-temps. On a regardé tout à l'heure les images qui choquent Maître Serran, de ces images qui viennent de Mantes-la-Jolie, des 151 élèves, qu'on a interpellé. Des images qui vous rappellent quoi?
Écoutez, moi sincèrement, encore une fois, il s'agit pas de jeter de l'huile sur le feu, mais ma première réaction était simple, c'est-à-dire que quand vous voyez des gamins, qu'on le veuille ou non, quand on zoome un peu, on voit bien que ce sont des gamins, alors des Français, j'imagine, pour la plupart, mais d'origine. Mais quand on voit ces gamins qui sont agenouillés avec les mains sur la tête, les mains sur la nuque, entourés de CRS, alors pardon pour mon obsession, mais moi, ça m'a rappelé des vieilles images de guerre d'Algérie. On voit le blanc armé, qui n'est pas en train de mettre en joue le gamin, mais ça y ressemble. Et je vous assure, et pourtant Dieu sait que je suis pas un type frileux, mais ça m'a donné des frissons. J'ai trouvé ça particulièrement inquiétant. Et je me dis, mais quelle est la personne qui peut donner ce type d'ordre? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Les types qu'on a vus, les CRS, ce sont de simples exécutants.
Ils exécutent.
Hein. Voilà, c'est ouais. tout. Donc, j'en veux même pas à ces CRS. Mais qui a eu l'idée de parquer ces gamins dans une cour, de leur demander de se mettre à genoux et puis de se mettre autour? Alors voilà, moi c'est ça qui m'interpelle. Et dans ce pays, si on en est là, je sais pas si c'est fait pour apaiser les tensions des gamins, mais les tensions de type de ma génération. Moi j'ai des enfants qui ont cet âge-là, et ben ça me met moi aussi en colère. Donc, est-ce qu'on a besoin d'alimenter la colère de toutes ces personnes? Je sais pas. Mais il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités. Et le type qui a ordonné ça, il faudrait qu'il saute. On peut pas garder un type pareil à la tête d'un tel service.
Ça coûte rien.
Non, mais vraiment. Mais c'est. Enfin voilà. Moi, ce sont des images qui me terrorisent. Et je le redis, sans exagération, sans jeter de l'huile sur le feu. Je trouve ça inquiétant. On est en France quand même. Voilà.
Maître Serran, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, on va parler de droit, de la garde à vue. Et on va pas parler de la garde à vue proprement dit, mais de ce qui se passe après. Alors, justement, quand on a retrouvé la liberté ou pas, qu'est-ce qui se passe?
Ben, c'est vrai qu'on avait évoqué déjà au sein de cette émission il y a quelques temps les conditions de garde à vue, donc on va pas y revenir. La question est de savoir, après la garde à vue, donc après l'expiration de ce délai de garde à vue, donc qu'est-ce qui peut se passer?
Alors, le délai, c'est...
Alors, on est à minima, enfin, j'allais presque dire, on est sur 24, après 48 heures, en fait, en fonction de la gravité, de la qualification, en tout cas, des faits qui vous sont reprochés, la garde à vue est plus ou moins longue. Mais ce qui va suivre là concerne toutes les formes de garde à vue, en tout cas, quel que soit le temps de cette garde à vue, qu'il s'agisse de 24 heures, de moins, ou alors qu'il s'agisse de 96 heures, en la matière. Donc, le procureur de la République, quand une personne est placée en garde à vue, il est contacté par les services de police et ils vont lui expliquer les faits qui sont reprochés. C'est le procureur de la République qui va piloter
quoi qu'il arrive, on appelle le procureur.
C'est le procureur.
Quel
que soit le motif.
Une garde à vue, une
interrogation. Voilà, les policiers travaillent sous l'ordre du procureur de la République. Une personne est interpellée, on contacte le procureur de la République pour dire, écoutez, voilà ce qui s'est passé, et c'est le procureur de la République qui va donner des instructions. Donc c'est vrai que parfois, quand on a des gardes à vue qui sont prolongées et que vous avez les types au commissariat qui vous disent, ah ouais, mais il y a le policier qui me dit que, on leur explique. Le policier, même chose, c'est un simple exécutant. Alors, je suis pas naïf, il y a une manière, quand on est policier, de raconter aussi son histoire ou d'évoquer les faits avec le procureur de la République pour souhaiter ou pas que la garde à vue soit renouvelée, mais la décision, elle revient toujours au procureur de la République. On a ce qui s'appelle l'opportunité des poursuites. Il faut savoir qu'un procureur de la République peut décider, même si on a des faits à vous reprocher, que ces faits sont pas suffisamment caractérisés, donc il pourrait mettre fin à la garde à vue sans aucune difficulté. Après cette garde à vue, on a plusieurs modes alternatifs, c'est-à-dire qu'en fonction, encore une fois, de la gravité de ce qu'on a à vous reprocher, vous pouvez être orienté, comme on dit, vers ce qui s'appelle une audience de médiation, c'est-à-dire que vous allez comparaître devant un médiateur ou un délégué du procureur. Le procureur peut, c'est ce que je disais, abandonner les poursuites et puis vous ressortez libre sans difficulté. Le procureur pourrait décider de ce qu'on appelle les comparutions immédiates. On a vu ça avec le mouvement des Gilets jaunes, pour ceux qui ont suivi l'actualité. Donc, on a parlé de comparution immédiate. Les comparutions immédiates, c'est, après votre garde à vue, le procureur de la République va vous déférer, c'est-à-dire que vous allez passer, alors soit le jour même, soit le lendemain, devant un tribunal correctionnel, donc comparution immédiate, et on va vous juger à ce moment-là. Alors, de deux choses l'une, soit vous considérez que vous êtes en état d'être jugé ou votre avocat considère que le dossier est en l'état et puis vous serez jugé le jour même, soit vous, en tout cas votre avocat sollicitera un renvoi de l'affaire qui est de droit en la matière, c'est le principe des droits de la défense. Donc ça, c'est le côté entre guillemets classique, la comparution immédiate. Mais pour des faits qui, en tout cas, sont considérés comme étant beaucoup plus graves et on l'a vu avec l'effet qui était reproché aux personnes sur concernant l'Arc de Triomphe. Donc on a des instructions qui ont été ouvertes, c'est-à-dire que le dossier a été orienté vers un juge d'instruction, donc qui va mener une enquête, alors que la comparution immédiate, ça se passe en une audience et ensuite, entre guillemets, c'est terminé. Là, c'est une enquête qui va se dérouler sur plusieurs semaines, voire évidemment plusieurs mois. Et là encore, vous avez la possibilité de vous retrouver devant un juge d'instruction et puis il y a une enquête qui va être menée. Donc il y a encore une fois toute une série de possibilités lorsque l'intéressé sort de garde à vue. Donc c'est soit les faits sont considérés comme très graves, boum, on se retrouve en instruction, soit on considère que les faits sont graves mais ne méritent pas une enquête approfondie, on est sur le cadre de la comparution immédiate. Et après, ce que je vous disais, on a des mesures alternatives. Ça ne veut pas dire que c'est pas grave, ça veut dire parfois qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments, et donc que le procureur de la République n'est pas tellement sûr de lui. Donc on descend d'un échelon sur l'éventuelle gravité de vos faits, ou la possibilité ou l'impossibilité de prouver que vous êtes l'auteur de ces faits. Et donc vous avez tout un panel de mesures prévues par les textes. Donc ça, c'est important de le dire. Encore une fois, je reviens pas sur les conditions de la garde à vue, l'intervention de l'avocat et autres, mais voilà, il y a une vie tout de suite après la garde à vue.
Ah, si, parce que les gens veulent savoir que finalement, après la garde à vue, il est où l'avocat?
Alors après la garde à vue, alors deux choses l'une, c'est-à-dire que soit c'est votre avocat, l'avocat de famille qui intervient dans le cadre de la
plupart,
garde à vue.
La plupart des gens, et si on parle des gens qui vont manifester, n'ont pas d'avocat,
non,
vous voyez, Metzeran.
Alors. Pour toutes les situations où vous ressortez libre du commissariat, mais vous êtes convoqué. Donc là, il n'y a pas de difficulté, entre guillemets, vous débrouillez pour aller chercher votre avocat, ou vous allez à l'ordre des avocats demander la désignation d'un confrère. Pour toutes les personnes qui sont renvoyées en instruction, qui sont renvoyées en comparution immédiate, pareil, les barreaux organisent des permanences. Ça signifie que même si vous n'avez pas votre propre avocat, vous n'allez pas vous retrouver tout seul devant les magistrats, les barreaux de France, donc ont leur propre permanence. Donc vous serez de toute manière assisté à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça peut toujours créer évidemment une angoisse. Et alors vous serez assisté, vous pouvez demander à être assisté pour la première audience et ensuite ça vous laisse le temps de faire appel à votre propre avocat. Mais même si vous arrivez les mains dans les poches et même si vous avez les moyens, et largement les moyens de payer un avocat, ouais, c'est pas lié à une histoire de revenus. C'est-à-dire que quelle que soit la personne, que vous soyez au chômage ou que vous perceviez 8000 euros par mois, si vous arrivez ce moment-là dans le cadre de la comparution immédiate et que vous n'avez pas votre avocat de famille, votre avocat personnel, l'État mettra à disposition un confrère donc qui va vous assister. Donc là, c'est pas lié à votre revenu.
Mmh. Ça dépend s'il y a beaucoup de gens en garde à vue ou pas, en fait. Subissement.
Ah bah oui, non, mais alors là, de toute manière, le barreau de Paris, notamment, donc a fait appel à toute une série d'avocats pour venir en renfort, puisqu'évidemment, avec
les événements... Ah, ça, c'est prévu, voyez.
Ah ouais, avec
non, c'est pour ça que je vous posais la question, parce que subitement, évoque la garde à vue aujourd'hui, c'est qu'effectivement... Ça...
Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'avocats, entre guillemets, quand la situation est relativement tranquille. Après, les barreaux s'organisent, c'est-à-dire qu'avec avec ce qu'on a vu et avec la multiplication des placements en garde à vue, évidemment, les barreaux se sont mobilisés et puis les avocats sont sur le pont donc pour assister les uns, ouais, complètement, pour assister les uns et les autres.
Bien. Maître Serran répond à vos questions dans un instant. Toutes vos questions juridiques au 01 53 48 3000, mais si vous ne souhaitez pas passer à l'antenne parce que, voilà, par discrétion, vous êtes timide, vous ne souhaitez pas évoquer votre affaire à l'antenne, vous pouvez téléphoner à Maître Serran après l'émission, bien sûr, sur son téléphone portable.
Bien sûr, qui est le 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Voilà, vous avez également la possibilité de lui envoyer un mail, alors là, c'est plus simple.
Maître, pas d'accent circonflexe sur le i.
Hein. Mais pourquoi vous dites ça?
Mais je le dis parce que j'ai plein de clients qui me disent, je vous ai envoyé un message sur votre adresse et puis ça revient. J'indique, est-ce que vous avez mis un accent circonflexe? On me répond que oui.
Bon,
donc
je non.
Précise.
Non.
Donc maître.serhane, S-E-R-H-A-N-E, @gmail.com.
Et c'est là qu'on peut vérifier que les auditeurs, si on leur dit n'appelez surtout pas pendant l'émission, sont tout à fait respectueux et respectent la consigne.
Vrai. En plus, je vous assure, c'est quelqu'un qui me parle souvent de l'émission, donc il sait qu'au moment où il m'appelle, je suis en direct.
Allez, 01 53 48 3000.
À votre service, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et le vendredi, nous parlons de droit avec Maître Serran. Maître Serran qui répond à vos questions au standard de Beurre FM. Je vous rappelle le numéro 01 53 48 3000 si vous voulez poser vos questions en direct à Maître Serran, toutes vos questions juridiques. 01 53 48 3000 pendant que Maître Serran répond à ses SMS tranquillement.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non.
Qu'est-ce qui se passe, Maître
Serran? Non, mais rien.
Vous êtes interpellé par...
Mais en plus, j'ai un téléphone qui délire. C'est-à-dire que... Vous voyez, là, il a... 54%, je raconte un peu ma vie, je suis navré. 54% de batterie. Et puis il s'éteint, je ne sais pas pourquoi.
Je pense que vous êtes sur écoute. Ou alors c'est une invitation au Père Noël.
Ah, ce serait ça. En tout cas, sachez que si un auditeur sympathique me trouve à son tour sympathique, il n'hésite pas, via votre radio, à m'envoyer un joli téléphone.
Oui, vous avez une marque préférée, peut-être, Maître Serran?
Écoutez, j'aime bien les pommes. Bien que ce téléphone m'énerve, mais il n'en demeure pas moins qu'il reste quand même le plus performant.
Sinon, je peux vous rapporter un Nokia 5110. Ouais,
non,
5110, 3110.
Non, je sais pas où vous avez vos plans de téléphone, mais oubliez.
C'est bien, mais par contre, il téléphone très bien.
C'est vrai.
Voilà.
Ça téléphone
vous
bien.
Vous laissez tomber par terre.
Je suis d'accord. Vous laissez tomber par terre dans les chiottes parce que c'est déjà arrivé. Et c'est indestructible. Mais esthétiquement parlant, ouais, moi, il me faut des choses qui puissent être à la hauteur de mon physique.
C'est-à-dire que vous êtes looké.
Ouais, normal.
On m'a dit que vous alliez à une soirée samedi soir, Maître Serran. Est-ce qu'on peut savoir comment vous allez être habillé ou pas?
Je suis habillé.
Tout à l'heure. Vous voulez qu'on en parle tout à l'heure?
C'est n'importe quoi.
Parce que je sais que vous allez à une soirée samedi soir, Maître Serran, et j'aimerais savoir si vous allez sortir votre joli costume. D'abord, je vous propose, si vous voulez bien travailler un petit peu, je vous propose de répondre à Mohamed qui vous appelle au 01 53 48 3000. Mohamed, bonjour et bienvenue.
Bonjour Monsieur Philippe et bonjour Maître Serrano.
Bonjour Mohamed, vous êtes le bienvenu.
Merci à vous.
Pardon, excusez-moi, bonjour Mohamed, j'ai essayé
de régler le,
régler le son. Bonjour Mohamed.
Bonjour Maître Serrano. En fait, j'ai deux questions à vous, s'il vous plaît.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, la première, en fait, j'ai eu un accident de travail en 2013. Et normalement, je devais voir mon chirurgien, la dernière consultation pour le chirurgien. Et ce qui se passe, c'est que la Sécu m'a appelé, en fait, pour vérification et tout. Et ils m'ont dit, on va attendre l'avis du chirurgien. Ce qui se passe, c'est qu'après une semaine, directement une semaine, ils m'ont envoyé, ils m'ont dit, oui, ça y est, c'est bon, vous êtes guéri à telle date, alors qu'ils n'ont pas attendu l'avis du chirurgien.
Mmh.
Et puis, j'ai des séquelles et j'ai des rechutes après. J'ai eu une rechute après et tout. Et je voulais savoir comment ça se passe pour entamer une procédure avec la Sécu, en fait.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans un premier temps, si vous n'êtes pas d'accord avec leur position et que vous êtes évidemment soutenu de votre côté à minima par un médecin, parce que s'aventurer tout seul contre l'avis de tous les médecins, c'est quasi injouable. Mais si vous avez un médecin qui partage effectivement votre situation et considère que tout ça est anormal, voilà, donc vous pouvez, ou le chirurgien, donc vous pouvez bien évidemment faire part de vos doléances donc à la sécurité sociale. Et si au niveau de la Sécu, eux restent sur leur premier avis, en disant attendez monsieur, d'après les éléments qu'on a, nous on considère que tout est ok. Ben, il y a un tribunal, Mohamed, qui est compétent pour ça. C'est le tribunal des affaires de sécurité sociale, donc où chacun donc sera amené à exposer ses arguments. C'est un tribunal où vous pouvez demander, en tout cas, à être accompagné de votre médecin. J'ai déjà vu ça dans des procédures où le médecin, lui, va venir expliquer l'aspect, j'allais dire plus par définition médicale, mais plus technique de votre dossier. Et c'est ce tribunal des affaires de sécurité sociale donc qui sera amené à trancher, alors en votre faveur ou pas. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, entre guillemets, se contenter simplement de l'avis de la Sécu qui dit bah, « pour nous, tout est OK » et puis dire « bon, bah, si on me dit c'est OK, tant pis ». Non, sachez qu'il y a des voies de recours en la matière. Je le redis, c'est un parcours qui, évidemment, est un parcours qui est assez long. C'est un parcours où il faut être accompagné, si ce n'est assisté par son médecin ou son chirurgien. Et puis après, voilà, c'est un magistrat donc, qui, après examen des pièces des uns et des autres, dira donc, qui a tort, qui a raison. Mais voilà, il ne faut pas se contenter que de l'avis de votre sécurité sociale. Voilà. Ouais. Alors je ne dis pas qu'il se plante à tous les coups, mais voilà, pour parfois, j'allais presque dire des raisons quasi budgétaires, on considère que, donc il faut pas hésiter, faut aller au clash, je le redis, en dehors de l'avis de l'avocat qui est important pour voir si la procédure peut tenir la route ou pas, il y a un autre avis qui est important, c'est l'avis du corps médical. Voilà, de votre médecin, leur traitant, de votre chirurgien, de responsable d'hôpital. Donc là, il faut réussir à concilier les deux, et l'avis de l'avocat et l'avis du médecin qui vous suit.
D'accord.
Voilà, Mohamed.
Voilà, la deuxième question, en fait, qui s'est passé, c'est que d'après l'accident, j'ai eu un jugement de reclassement dans la société.
Ouais.
Par contre, la société m'a licencié le jour même où ils ont reçu le jugement de classement, en fait.
Quand vous me dites un jugement de classement, c'est-à-dire que on parle de quoi, là?
C'est pas un jugement, en fait. Pour le médecin de travail, il leur a dit il faut le reclasser.
D'accord, c'est-à-dire qu'on a un médecin du travail donc qui dit que, donc a priori, vous ne pouvez pas occuper le poste initial.
Voilà.
Et le médecin du travail dit, bon, il y aurait éventuellement tel ou tel poste qui pourrait convenir. Et c'est à la suite de ça qu'on vous a licencié.
Oui. Ce qui se passe, c'est que le jour même où ils ont reçu l'avis du médecin de travail,
ouais,
eux, ils m'ont licencié le ce jour même, en fait.
Avec quel motif?
Bah, comme quoi, ils n'ont pas trouvé un poste.
D'accord. Donc, ils ont anticipé la décision du médecin. Donc, en gros, en disant, nous, on n'a rien à lui proposer et on le licencie.
Voilà. Bon. Alors que normalement, il devait avoir un mois pour chercher ou pour trouver.
C'est ce que j'allais vous dire, sauf à ce qu'ils aient déjà anticipé, mais je ne veux pas le croire. À partir du moment où vous avez un médecin du travail qui dit que monsieur occupait tel poste pour des raisons de santé, ce n'est plus possible, mais voilà ce qu'il serait capable de faire. Alors parfois, vous avez un délai limité pour rester debout, parfois il y a des pauses assez régulières doivent être faites. Enfin voilà, il y a toute une série de conditions évoquées par le médecin et qui vont s'imposer à votre employeur, à charge pour l'employeur de trouver un poste qui pourrait vous convenir. Après, de deux choses l'une, c'est-à-dire qu'il arrive aussi, pour être tout à fait clair et honnête, que la société finisse par dire, écoutez, nous on a cherché et effectivement on n'a rien trouvé. Boum, et on arrive au stade du licenciement. Mais il arrive aussi que la société dise, bah, écoutez, on n'a rien trouvé, et donc je ne peux pas garder ce monsieur dans les conditions souhaité notamment par la médecine du travail, et puis quand on conteste, il s'avère que la société est incapable de justifier de quoi que ce soit. C'est-à-dire que la recherche du poste qui pourrait s'adapter à votre situation va dépendre aussi de l'importance de la structure au sein de laquelle vous évoluez. C'est-à-dire si c'est un artisan qui vous emploie et vous êtes deux, ça me semble un peu difficile. Donc c'est vrai qu'il y a ce contexte-là, c'est dans quel cadre vous travaillez. Est-ce que cette société a des points de chute sur le territoire français? Enfin voilà.
Donc, mais est-ce que d'un point de vue de procédure, la société est tenue d'attendre la conclusion du médecin du travail avant de procéder au licenciement, et à ce moment-là, il y a peut-être un vice de procédure, ou pas?
À minima, c'est-à-dire qu'au nom de quoi, en tout cas si je suis le raisonnement de Mohamed, au nom de quoi la société, le jour même, ou même avant que le médecin du travail dise, écoutez, il y a tel poste qui pourrait convenir à monsieur, au nom de quoi on viendrait le licencier pour dire, on n'a pas trouvé de poste qui pourrait vous convenir, enfin, ou alors qu'on m'explique, c'est fondé sur quoi? Donc il y a l'avis de la médecine du travail, et à partir de là, l'avis de la médecine du travail est notifié aux uns et aux autres, et puis la société qui est de bonne foi va essayer de trouver un poste qui correspond, mais une société qui dirait, j'allais presque dire, quasi simultanément, en même temps que la décision rendue par la médecine du travail, ou même quelques heures avant que la décision soit rendue, « Cher monsieur, on ne peut pas vous garder, on n'a pas de poste à vous confier », ça me semble difficile à justifier, donc ça vaudrait le coup évidemment de contester, à charge pour la société demain, devant les prud'hommes, d'apporter la preuve qu'elle a bien été informée, qu'elle savait de quoi on parlait, qu'elle a fait des recherches et qu'elle n'a absolument rien trouvé. Là, ça me semble être beaucoup de précipitation. Vous n'avez pas eu de contact depuis avec eux, avec votre société?
En fait, ce qui se passe, c'est un petit peu compliqué. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis parti au Prud'homme avec eux et tout, avec un avocat et tout.
Ouais.
Et avec le justificatif comme quoi c'est le même jour, ils ont même pas pris la peine de chercher pour me reclasser et tout. Et ce qui se passe, c'est que le Prud'homme, il a pas, après la plaidoirie et tout, le jugement et tout, ils ont dit non.
Alors quand vous me dites j'étais au Prud'homme, c'est-à-dire qu'il y a eu une audience.
Oui, voilà.
D'accord, il y a eu une audience, vous avez eu le délibéré, le Conseil des Prud'hommes considère que, j'allais dire chronologiquement, tout est carré, qu'il n'y a pas de difficulté.
Non, c'est pas ça, c'est juste, c'est pas vers le. Apparemment, ce qu'il m'a expliqué l'avocat, il m'a dit on n'a pas eu jugement favorable.
Mais ça, je l'ai bien compris. Donc, manifestement, les prud'hommes n'ont pas été dans votre sens. Mais ils l'expliquent comment? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas dans votre sens? Ils le motivent, comme on dit, comment?
Alors là.
Votre avocat a dû vous dire, bon, le prud'homme, il n'est pas d'accord avec nous, parce que. Et puis, il a dû vous expliquer quelque chose après, non? Ou il vous dit le prud'homme, il dit non?
Ouais, franchement, c'était vague. C'était vague, lui aussi, il n'a rien compris. Après, il m'a dit, oui, on va faire. Qu'on peut y aller faire, on va faire l'appel.
Oui, non mais ça, d'accord. Là, encore une fois, il n'y a pas de difficulté. Mais vous savez, moi, j'explique souvent à mes clients, faire appel pour faire appel, ça présente zéro intérêt. On fait appel d'abord quand on prend connaissance de la décision et qu'on regarde la manière dont elle est motivée. Il arrive parfois, alors je ne parle pas de votre dossier, encore une fois, je ne le connais pas en détail, mais de ce que vous me dites, moi, ça me semble, j'allais dire aberrant, mais encore une fois, les avocats travaillent sur pièce. Il arrive parfois que, mais moi le premier, où je dis à un client, laissez tomber, l'appel est, ça ne présente aucun intérêt, c'est injouable, la première juridiction a rendu une décision hyper motivée, c'est-à-dire que quand un client se plaint, il n'est pas toujours dans son bon droit, ça on peut quand même le dire, ouais, sinon ça n'aurait pas de sens de faire des procédures pour des procédures. Maintenant, mais votre avocat vous le dira mieux que moi, avant de dire on fait appel, ce serait bien de lui demander, lui poser la question et de lui dire, bon, on n'a pas obtenu gain de cause, expliquez-moi pour quelle raison le conseil de prud'homme me reproche quoi, pourquoi est-ce qu'il donne raison à mon employeur, enfin, essayez de trouver éventuellement les reproches qui vous sont faits ou les lacunes dans votre dossier aux yeux du conseil de prud'homme.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais ouais, mais là, enfin, ça, c'est un échange, normalement, que vous avez, j'ai presque dire, de manière évidente et normale avec votre conseil. Hein.
Ouais, celle-là, c'était un petit peu, avec l'avocat, c'était un petit peu vite fait, et il m'a pas bien briefé ce qui s'est passé et tout. Donc, il m'a dit, oui, on n'a pas eu de faveur et tout, on va faire appel, et ça y est, bon, je me suis dit, bon, laisse tomber.
C'est-à-dire quoi, vous voulez pas contester?
Non, j'ai dit bon, c'est casse-tête et tout, ben on va rentrer dans une grande société. J'ai dit bon, ils vont absolument pas, on va pas avoir quelque chose, donc laisse tomber.
C'est intéressant ce que dit Mohamed là, parce que souvent on a des clients qui vous disent quand ils ont affaire à une grosse boîte en disant non mais attendez, c'est une grosse société, ils ont une armée d'avocats et puis forcément on m'écoutera pas. J'allais presque dire qu'évidemment c'est un argument qui se tient pas, c'est-à-dire que les magistrat, qu'on le veuille ou non, et même quand on décide de faire appel, je rappelle que dans le cadre d'un conseil des prud'hommes, on a des patrons et des salariés, que quand on fait appel de ce type de décision, on a affaire devant la cour d'appel à des magistrats professionnels. Donc, et le fait qu'il s'agisse d'une grosse boîte ou pas, ça ne refroidit pas les juges en disant tiens, c'est un petit artisan, une petite PME, on va lui taper sur la tête.
David contre Goliath.
Et une grosse société, moi magistrat, je vais rien faire. Donc ça, c'est faux. La question se pose pas sur l'importance ou la notoriété d'une société. Encore une fois, ce qui est important avant d'interjeter éventuellement appel, c'est le boulot des avocats, l'expliquer aux clients, c'est d'examiner la motivation, c'est-à-dire les raisons qui sont invoquées, et Encore une fois, il arrive parfois qu'en première instance, on vous donne pas raison, mais quand vous interjetez appel, la cour d'appel revient sur la totalité de la décision en disant, en gros, pour caricaturer, que le conseil des prud'hommes a commis une erreur. Donc la question se pose comme ça, mais ne vous dites pas, tiens, c'est une grosse société, je vais pas me frotter à cette société. On peut pas raisonner comme ça. Et en plus, ça n'a pas de sens, sincèrement. Les juges ne donnent pas une décision favorable que contre les toutes petites structures, et heureusement. Donc, voyez avec votre avocat qui vous explique bien les motivations, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu gain de cause. Après, à vous de voir si ça tient la route ou pas. Maintenant, évidemment, si vous dites ça tient pas la route, ça sert à rien d'aller foncer la tête droit dans le mur.
Voilà, Mohamed.
Merci à vous, en tout cas, c'est très gentil. Merci.
On n'est plus par le temps. Merci, Mohamed. Maître Serran, à bientôt. Bonne journée. Répondra à d'autres questions dans un instant. 01 53 48 3000. C'est important de tout dire au début, parce que c'est vrai qu'effectivement, le fait qu'il y avait déjà eu une procédure au prud'homme, ça change quand même les choses.
Ah bah ouais, carrément, mais bien sûr.
01 53 48 3000 si vous avez une question juridique à poser à Maître Serran.
À votre service, reviens dans un instant. 9h, 10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Maître Serran est au taquet. Une question, s'il vous plaît, à Maître Serran, parce qu'il y a du monde qui attend dans la salle d'attente. Nous allons à Lille, Maître Serran, si vous voulez bien. Okay. Et c'est Fifi de Lille qui nous appelle. Fifi, bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour Maître Serran.
Bonjour Fifi.
Bonjour.
C'est un prénom officiel, voilà. Fifi.
Je ne sais pas, par mesure de discrétion.
Non, j'étais sûre que vous allez me poser question.
Non, mais ça peut être un prénom officiel. Je pose la question.
Non. C'est mon vrai prénom. Non.
Si, c'est donc un prénom officiel.
Donc, c'est pas moi.
Voilà, c'est son vrai prénom, Maître Serran. Fifi, voilà. Et vous n'avez rien à dire. Et c'est très joli.
Est-ce que je dis que c'est pas joli? Dites-moi, Fifi.
Oui, voilà. Moi, j'ai une copine, elle est un peu perdue, Maître Serran. Elle a son fils qui il a 14 ans. Donc, elle l'a reçu il y a un an de ça. Il a sa carte de séjour, ça fait pour... bref, j'ai un peu le trac, excusez-moi.
Ah bah ça, c'est normal.
C'est normal. En plus, quand on a une amie qui est perdue, il vaut mieux prendre un bon GPS. Humour pourri.
Non, mais... Maître Serran, il faut changer d'auteur.
Non, mais d'accord, c'est vrai. Donc, je ne vous confierai plus mes textes. Bon. Allez-y, Fifi, je vous écoute.
D'accord.
Donc, votre ami...
Il a fait une bêtise. Il a fait une bêtise cette semaine-ci. Elle est complètement... avec une malheureuse fréquentation. C'est un gars très bien. Il a 14 ans et tout.
Ouais.
Donc, il s'est assisté à un vol de téléphone. Donc, il a été en garde à vue. Et voilà, je veux savoir la suite. C'est-à-dire, comme il a une convocation le 22, donc... Ça sera quoi après?
Il
a 14 ans.
Voilà, il a 14 ans, c'est un mineur. Les faits que vous évoquez après, il y a plusieurs qualifications. Alors,
c'est la première fois.
C'est la première fois. Il n'y a pas eu de violence. C'est-à-dire que, il y a peut-être un téléphone qui a été volé. Même, si, quand même.
En fait, violence, non, le policier, il a dit à la maman que comme quoi, il a attrapé le gars. En plus, il est mineur, l'autre aussi. Ils étaient deux, hein.
D'accord, je parle pas de la violence du policier, c'est-à-dire que il a volé un téléphone, l'histoire c'est ça ou pas? Ou alors lui, il était à côté, c'est tout?
Il a dit que c'était pas lui, il a eu les témoins, il a dit que comme quoi, c'était pas lui, mais bon.
Ils étaient deux, pour comprendre bien, ils étaient deux, c'est ça?
Ils étaient deux, oui.
D'accord, donc a priori, c'est le camarade.
Ce qui paraît, donc
D'accord. À minima, c'est au moins l'un des deux. on va au moins accorder ça à la justice. Bon, toujours est-il que, de ce que vous me dites, c'est un mineur. Les faits, encore une fois, j'aime pas dire que les faits sont pas graves, parce qu'on a parfois des magistrats qui nous regardent de travers en disant, maître, oui, ce sont des faits, mais qu'on le veuille ou non, on peut relativiser, c'est pas si grave que ça. Donc, sera convoqué, ou il a déjà été convoqué devant...
Non, pas encore.
Il sera convoqué, devant un juge pour enfants. Et puis, il va raconter son histoire. Même chose. Mm-hmm. Et malheureusement, ce genre de situation se multiplie, encombre les juridictions. Donc, il aura une petite tape sur les doigts, mais ça va pas aller plus loin que ça. Alors c'est vrai que quand je dis ça, parfois on me dit, mais alors dans ce cas-là, la justice ne punit pas. Oui, mais il faut que la justice puisse punir aussi de manière proportionnée. On va pas terroriser ce gamin pour une histoire de portable.
Mais on appelle ça comment? Juridiquement, c'est quoi? C'est un rappel à l'ordre? C'est quoi un rappel à la loi?
Il peut y avoir plusieurs choix. Ça peut être voilà, l'équivalent d'un rappel à la loi. On peut lui faire ce qu'on appelle un stage de citoyenneté. C'est-à-dire dire, bon, ben, écoute, gamin, tu vas aller faire ça. Et c'est ça qui va constituer la sanction. Mais encore une fois, on a affaire à un mineur. La justice n'est pas là.
Évidemment, et en plus, je ne parle pas des choses de
hyper graves, mais la justice n'est pas là pour les terroriser.
Est-ce que ça peut avoir une incidence sur son titre de séjour, Maître Serran?
Non, il n'y a pas d'incidence là-dessus. Encore une fois, sous réserve des éléments que vous me donnez. Non, ce sont pas des infractions qui, entre guillemets, méritent ou mériteraient que les autorités préfectorales soient en alerte pour dire ce type est potentiellement dangereux, il faut qu'on le dégage. Bon. Donc non, il n'y aura pas d'incidence par rapport à ça. La sanction qui sera éventuellement prononcée, parce qu'il n'y a rien qui exclut aussi une relaxe, vous savez, c'est-à-dire que si effectivement il n'est pas démontré qu'il a participé de près ou de loin donc à cette infraction, eh ben un magistrat peut prononcer une relaxe, hein, c'est tout à fait possible en la matière. Mais quand bien même il serait condamné, ben voilà, on peut tranquilliser quand même la famille. En règle générale, je dis toujours de pas forcément tenir ce discours auprès des gamins, parce qu'après ils se sentent pousser des ailes. Donc voilà, il faut lui mettre un bon coup de pression. Et parfois, vous savez, c'est plus la pression des parents qui fonctionne que la pression des magistrats pour les mineurs. Souvent, on entend quand on est en juridiction des mineurs, le type dire « Oh bah t'as vu, de toute manière, il se passe rien, on n'est pas condamné ». Donc c'est plus le rôle des parents de mettre la pression. Mais la question c'est est-ce que la maman doit s'inquiéter ou est-ce que le gamin doit s'inquiéter, c'est pas un bon point pour lui, mais voilà, c'est pas si grave. Il n'y a pas de quoi terroriser ni les parents ni ce jeune homme.
Ok, ben je vous remercie en tous les cas.
Merci à vous, Fifi.
Merci Philippe et merci Maître Serran.
Vous pouvez appeler Moumou. Parce qu'on, dans l'intimité, on l'appelle Moumou. Donc, Moumou, c'est Mourad. Appelez-le Moumou.
Oui, j'ai compris.
Ça va lui faire plaisir.
Non, pas Moumou. Vous savez pourquoi pas Moumou?
Non, vas-y.
Vous voulez pas le savoir?
Ah, si, je veux savoir.
Vous voulez savoir
pourquoi? Non, je veux qu'on parle à Malika.
Un grand utilisateur d'un gourdin.
Bien.
Voilà.
Merci Fifi pour votre appel. Malika, bonjour et bienvenue.
Allô?
Oui, Malika, bonjour, bienvenue. Et si vous avez le haut-parleur ou le kit main libre, revenez à nous.
D'accord, non, j'ai pas l'haut-parleur.
C'est bon, d'accord. Bon, voilà, alors allez-y, Maître Serran vous occupe.
Oui, bonjour Maître Serran, bonjour
Malika.
Voilà, une petite question. Je travaille dans un service RH, dans une grosse société, et ma responsable, par erreur, a envoyé un fichier très confidentiel où on a les salaires de tout le monde, notamment ceux de mon équipe et ceux des PDG, aux responsables. Donc voilà, suite à ça, je me suis rendu compte que j'avais un très gros écart de salaire par rapport à moi et mes collègues, c'est-à-dire entre 700 et 800 euros, alors que je suis beaucoup plus diplômée qu'eux. Je voulais savoir si je pouvais m'en servir contre eux, parce qu'en fait, ma responsable...
J'adore ça.
Pardon ?
J'adore, moi, ça.
Ah oui ? Donc ma responsable s'en est rendu compte parce que bon, ça s'est su, tout le monde a comparé les salaires des uns des autres, notamment les leurs, hein, de nos responsables. Et en fait, on s'est rendu, elle est venue dans nos PC, nous fouiller à chacun d'entre nous pour nous effacer. Bon, j'avais déjà envoyé chez moi. Elle nous a effacé parce qu'en fait, on devait travailler sur ce fichier, mais elle a pas fait son tri. Donc elle m'a regardée parce que je pense qu'elle sait que j'ai un très gros salaire parce que je suis la moins payée de tous, hein. Et donc elle m'a dit Malika, attention, tu ne peux pas t'en servir, c'est confidentiel, ça peut se retourner contre toi. Alors je voulais savoir si c'était vrai ou pas.
Écoutez, enfin, à partir du moment où vous n'avez pas piraté l'ordinateur de X ou de Y, voilà, à partir du moment où vous n'avez pas braqué les uns et les autres pour avoir l'information vous tombe dessus, il n'y a rien qui vous interdit ou vous interdirait d'utiliser ces éléments pour, si demain vous considérez qu'il y a effectivement un écart injustifié, pour mettre ça en avant. Donc il n'y a pas de difficulté. Moi, je connais le même problème au sein de Beurre FM.
Il est à combien le PDG?
Oulala, ça dépasse les 100 000 euros.
Par mois ou par an?
Par mois.
C'est sérieuse.
C'est une grosse boîte aussi.
Au prochain entretien annuel, Malika, faut y aller. Hein.
Non, mais le prochain, je pense que je vais pas attendre jusque là parce que j'ai déjà, enfin, on a, J'ai eu des rumeurs des salaires des uns des autres, mais je n'y croyais pas. Ouais. Donc là, j'ai la preuve concrète et ma responsable, je lui ai soulevé cette info et elle m'a dit que c'était comme ça, que eux les autres avaient un avenir professionnel, enfin qui avaient une expérience. Alors que j'ai 20 ans dans la boîte, hein. Mais je pense que le souci, c'est que vous m'entendez là ?
Ah oui, on vous écoute.
Oui, oui, oui. Ah oui, parce qu'en fait, le souci, c'est que j'ai 5 enfants et.
Alors là, vous avez perdu. Mais quel est l'argument juridique qu'on peut invoquer dans ce cas-là quand on se rend compte qu'il y a un fort écart, on va dire, à travail équivalent?
Vous pouvez considérer qu'il y a ou il y aurait éventuellement une discrimination. C'est-à-dire que, j'allais presque dire, à compétences équivalentes, il n'y a aucune raison pour, alors, qu'on soit une femme ou qu'on s'appelle Emalika ou Mohamed ou autre. C'est-à-dire qu'il y a aussi cet aspect-là. Est-ce qu'on n'est pas éventuellement, alors sous toute réserve, je suis toujours prudent hein, quand on parle de discrimination, il ne faut pas mettre ça à toutes les sauces, mais c'est une question qui est quand même légitime. Qu'est-ce qui objectivement explique ou expliquerait qu'à poste ou à compétence égale, on a des personnes qui touchent absolument
alors
pas le même salaire.
Techniquement, quand on sait qu'on a les preuves que ça existe, comment on fait ?
Bah, dans un premier temps, alors j'avais presque dit, en règle générale, et là en particulier, il s'agit d'un fichier qui a ou aurait fuité, donc on n'a peut-être pas forcément envie de mettre ça sur la place publique. Donc, Malika, vous avez quand même des éléments entre vos mains pour essayer de discuter en tête à tête avec les responsables. Et je le redis, si effectivement on considère que votre argument est sans valeur et c'est comme ça et pas autrement, vous avez le droit de saisir un conseil des prud'hommes. Et cette fois-ci, mais c'est toujours négatif.
C'est le conseil des prud'hommes qui est compétent dans ces cas-là.
C'est le conseil des prud'hommes qui est compétent en la matière, mais c'est toujours négatif. Pour une l'intéressé, c'est une procédure, mais pour une société, c'est jamais bon de mettre ça en avant et d'avoir l'étiquette entre guillemets comme quoi vous êtes à l'origine de discrimination. Donc, mais essayez de jouer la carte plutôt tête à tête et pas forcément mettre ça en avant.
Ouais,
et
puis bah...
ça devrait être jouable. Hein, ils aiment pas trop ça. C'est que de la mauvaise publicité, ça. Hein, donc ils aiment pas trop ça.
Maître Serran, qui est absolument très gentil, va vous donner son numéro de téléphone là,
par exemple,
immédiatement.
Qui est le 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Voilà, et si Malika, vous n'avez pas le temps de noter, vous réécoutez le replay de cette émission qui sera en ligne sur le www.beurrefm.net. Rapidement, Nordine est avec nous. Nordine, merci de votre patience et bienvenue.
Allô ?
Oui, Nordine, bonjour.
Oui, bonjour Philippe, bonjour Maître Serran.
Bonjour Nordine.
J'espère que vous allez très bien.
Alhamdoulilah, Nordine, et vous-même ?
Voilà, impeccable, impeccable. Voilà, en fait, moi, là, je vous appelais, en fait, moi, c'est par rapport à ma fille. Elle s'est mariée au mois de mai. Et en fait, son mari était là, il avait déposé une demande pour... il était venu avec un visa.
Ouais.
Et donc, il avait déposé par rapport à un employeur qui devait l'employer. Donc, on appelle ça un visa professionnel par rapport au travail.
Ouais.
Et ça lui a été refusé.
Donc, alors, ce qui lui a été refusé, c'est quoi ? C'est le visa ?
Oui, le visa.
D'accord.
Pour avoir les papiers, enfin, pour avoir la carte. Donc, ça a été refusé. Ils lui ont demandé, entre-temps, il avait reçu un QTI pour quitter le territoire.
Ah, d'accord. Donc, il a eu une obligation de quitter le territoire.
Voilà, mais entre-temps, au mois de. Il avait dépassé d'un mois, mais au mois de mai, il s'est marié, donc ma fille avait, se sont mariés. Donc, on a fait un mariage à la mairie. Elle a un logement, elle a pris un logement, donc avec un bail aux deux noms, bien sûr, à son nom et à son mari. Et donc elle a déposé un dossier à la préfecture pour lui demander pour la carte de séjour.
Mmh.
Et donc la préfecture lui a conseillé de venir pour que ça accélère les choses, comme il a eu de quitter le territoire.
Ouais, l'obligation de quitter le territoire. Et donc la préfecture lui a dit quoi?
Je dis, valait mieux qu'il retourne au Maroc et qu'il attend.
Ah ouais. Bon, ça, c'est les ruses éternelles et ça marche encore, manifestement, des autorités préfectorales. En même temps, je peux pas en vouloir aux autorités françaises, monsieur. C'est-à-dire que quand vous avez une obligation de quitter le territoire, vous avez un délai pour contester cette obligation. D'abord, est-ce que ça a été fait?
Non. Parce qu'en fait, entre-temps, lui, il n'avait pas vu le courrier.
Bon, ça, c'est un argument, je peux l'entendre. Mais juridiquement, ça marche pas. Hein, c'est injouable.
D'accord.
En règle générale, dans les procédures normales, vous avez 30 jours pour faire un recours. Si c'est pas fait, là, c'est terminé. Voilà. Et on considère, on considère que, en gros, que vous acceptez la décision. Donc le bémol, c'est ça. C'est-à-dire que là, le monsieur part sur un mauvais pied, et je peux vous assurer que quand les autorités préfectorales lui disent « bah écoutez, retournez au pays et puis vous vous approchez du consulat français », c'est certain, monsieur, qui ne reviendra plus ni en avion, ni en bateau. C'est certain. Voilà, puisqu'il a déjà une obligation de quitter le territoire sur les reins qui a été prononcée, monsieur l'a pas contesté. Même si là, on est dans le cas d'un changement de statut, c'est plus la même situation, mais juridiquement, c'est injouable maintenant. S'il part au pays, faut qu'il revienne à la nage, mais il ne reviendra pas avec un visa et de manière officielle.
Alors, s'il a suivi la procédure, on continue le consulat français.
Alors, Nordine, on ne vous entend plus, puisque là, l'émission arrive à sa fin. Maître Serran va vous donner son numéro de téléphone.
Ouais, plutôt, parce qu'en plus, c'est saccadé, là, on n'entend plus. Vous pouvez me contacter, si vous le souhaitez, hein, 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Maître Serran, vous n'avez pas eu votre chocolat?
Non, c'est vrai.
Je vous sers un chocolat, puisque l'imam Abdelali Mamoun arrive et veut vous parler, sa barde.
Sauf que j'ai dit
non, il arrive.
Une audience
et que je devais chocolat pour patienter.
À 11h à Bobigny.
Bien, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour les petites annonces.